VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 18h30 TU, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 31 mai 2017. John Linden en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, en Côte d'Ivoire, le gouvernement et les démobilisés annoncent l'accord sans révéler le contenu. Au Niger, une vingtaine de personnes envoyées en prison dans l'affaire de trafic de bébés, dont l'épouse de Ama Amadou. Au Cameroun, le mystère plane sur la disparition d'un évêque dont le véhicule a été retrouvé sur un pont. Au moins 90 personnes sont mortes et des centaines d'autres blessées dans un gigantesque attentat à Kaboul. Et puis nous retrouverons Bagassi Koura pour les sports et Abdourahmane Dia pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les démobilisés. Ces anciens rebelles avaient manifesté leur colère il y a 10 jours à la suite des primes perçues par des soldats mutins. Le point avec Eric Manirakiza.
Le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a déclaré qu'un accord a été trouvé. On ne paie pas les primes, mais nous avons trouvé un terrain d'entente, a-t-il ajouté. De son côté, Diomède Megbe, porte-parole des démobilisés, a précisé après leur rencontre à Abidjan, que le gouvernement a fait de belles propositions et la protestation est terminée. Aucune des deux parties n'a voulu révéler le contenu de l'accord. Les démobilisés sont d'anciens rebelles qui n'ont pas été intégrés à l'armée. Ils réclamaient des primes de 18 millions de francs CFA chacun, c'est-à-dire la même part de butin que les anciens rebelles intégrés à l'armée ivoirienne et qui ont obtenu chacun 12 millions de francs CFA après plusieurs mutineries. 5 démobilisés ont trouvé la mort, dont 4 le 23 mai, lors de la dispersion musclée de leur mouvement Bouaké, ancien fief de la rébellion.
Le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est engagé à retrouver les coupables du lynchage public d'un soldat confondu avec un voleur alors qu'il faisait son jogging dans une petite ville au sud du pays. Au Niger, une vingtaine de personnes, dont l'une des épouses de l'opposant Ama Amadou, ont été incarcérées. Elles avaient été condamnées à mars à un an de prison pour un trafic de bébés. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
C'est à partir de la gendarmerie nationale où elles ont été convoquées pour recevoir la notification de leur incarcération que la vingtaine de personnes condamnées dans cette affaire a été conduite dans les prisons de Saï pour les hommes et Kolo pour les femmes. Parmi ces dernières, l'épouse de Ama Amadou, condamné lui-même à un an de prison, mais absent du territoire national depuis mars 2016. Il y a aussi l'ancien ministre Abdoulabo, actuellement député à l'Assemblée nationale. Pourquoi avoir attendu près de 2 mois pour les incarcérer? Une source judiciaire affirme à VOA Afrique que c'est le temps pour rédiger l'arrêt final de condamnation, mais aussi pour remplir un certain nombre de formalités, notamment la signification par voie d'huissier aux condamnés de la décision. Dans les milieux proches des personnes incarcérées, c'est plutôt la récente saisie par Ama Amadou de la Cour de justice de la CEDEAO dans cette affaire qui a fait que la décision est en train d'être exécutée par peur de la voir cassée par la juridiction communautaire. En rappel, cette affaire de bébé importé a fait grand bruit ici au Niger depuis 2014 qu'elle a été révélée par un journal de la place. Abdoulaye Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La première dame du Nigeria, Aïcha Bouhari, est partie hier pour Londres où elle doit être au chevet de son époux qui suit actuellement un traitement médical dans la capitale britannique, alimentant un peu plus les inquiétudes sur l'état de santé du président. En début d'année, M. Bouhari, 74 ans, a passé près de 2 mois à Londres pour des raisons de santé avant de repartir à nouveau début mai. Les causes de sa maladie n'ont pas été dévoilées, mais son entourage se voulait rassurant mercredi, affirmant qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Au Cameroun, Mgr Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia, ville située à 129 km de Yaoundé, est porté disparu. Des sources de la conférence épiscopale contactées par notre correspondant sur place déclarent que le véhicule de l'évêque a été retrouvé garé sur le pont des Bebda, à 78 km de Yaoundé, la capitale. On y a trouvé un mot inscrit « Je suis dans l'eau », rapporte Marceline Manga, assistante de communication à la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. L'hypothèse d'un suicide ne peut pour l'instant être confirmée. Mgr Jean-Marie Benoît Bala a été nommé évêque de Bafia par le pape Jean-Paul II. C'était en 2003. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a mis fin aux fonctions de deux ministres, David Oudengar Omine et Amit Mahamat Dahalop, à l'aménagement du territoire, selon l'AFP. Les deux ministres seraient épinglés dans des malversations par l'inspection générale d'État. Au Rwanda, des diplomates occidentaux en poste à Kigali se disent préoccupés par une directive de la commission électorale l'autorisant à contrôler les publications de campagne sur les réseaux sociaux des candidats à la présidentielle du 4 août prochain. En effet, la commission électorale nationale a récemment publié une directive prenant effet à partir du 14 juillet, date du début de la campagne électorale, qui oblige tous les candidats à la présidentielle à lui soumettre au moins 48 heures avant leur utilisation tous les messages photographiés ou autres matériels de campagne qu'ils souhaitent publier sur les réseaux sociaux. Les autorités éthiopiennes ont annoncé mercredi avoir désactivé les services de l'Internet mobile dans le pays sans fournir d'explication à cette mesure qui a affecté des institutions telles que l'Union africaine et une commission de l'ONU basée à Addis Abeba. Au Kenya, l'explosion d'un agent artisanal a tué 4 policiers et 1 civil dans la ville de Bor, dans le nord-est du pays. Il y a une semaine, des attentats revendiqués par les islamistes Shabab avaient fait 14 morts, tous des policiers. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Un véhicule transportant 7 policiers a sauté sur un engin explosif à Baoré, dans le nord-est du Kenya. 2 policiers sont toujours portés disparus. On ignore si la victime civile se trouvait à bord du véhicule de la police. Aucune revendication n'a été faite pour le moment. Cependant, il y a juste une semaine, des attentats similaires avaient tué 14 policiers. Toutes ces attaques ont été revendiquées par les islamistes somaliens Shabab. Le chef de la police kényane, Joseph Boané, a toutefois mis en garde contre le risque de multiplication des attentats pendant le mois de Ramadan. Le Kenya a subi plusieurs attaques terroristes depuis le début de son intervention militaire en Somalie. En 2013, l'assaut contre un centre commercial de Nairobi avait fait 67 morts. Et en 2015, à l'université de Garissa, les djihadistes avaient massacré 148 personnes.
Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés de l'ONU donc fait état de fraude et de graves malversations découvertes dans le camp des réfugiés de Kagoma dans le nord-est du Kenya à la suite d'une enquête interne. Selon un communiqué publié hier à Genève, l'OHCE précise que l'enquête a été lancée après que l'agence de l'ONU eut reçu des allégations de fraude, de corruption, de menaces et d'intimidation dans ce camp. L'enquête a confirmé l'implication de 5 membres du personnel du camp contre lesquels une série de mesures a été prise. Des familles de migrants tunisiens portés disparus depuis leur tentative de rejoindre l'Europe par la mer dans le tumulte du printemps arabe ont accusé mercredi les autorités de leur pays de négligence. Des milliers de Tunisiens ont tenté de gagner par la mer l'Italie après la révolution de 2011. Quelques 1500 Tunisiens sont toujours portés disparus, mais selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, seuls 503 dossiers ont été déposés au ministère des Affaires étrangères. En Tunisie toujours, 6 personnes soupçonnées de liens avec un groupe agissant au nom de l'organisation État islamique ont été arrêtées à la faveur de l'opération menée ces derniers jours dans l'ouest du pays, ont annoncé les autorités. L'identité des personnes arrêtées n'est pas connue, mais le ministère de l'Intérieur a affirmé qu'ils appartenaient à des cellules dormantes de Junk al-Khilafa, traduisées « soldats du califat », groupe ayant déjà mené des opérations djihadistes dans le pays au nom de l'État islamique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La capitale afghane a connu un de ses plus violents attentats de ce matin. L'explosion d'un camion piégé a tué au moins 90 personnes et fait des centaines de blessés dans le quartier diplomatique de Kaboul. Les précisions de Jacques Aristide.
La déflagration déclenchée près de l'ambassade d'Allemagne a été causée par une citerne à eau contenant plus d'une tonne et demie d'explosifs, d'après des sources à Kaboul. Elle a été actionnée par un kamikaze, provoquant une onde de choc dans la ville et d'énormes dégâts dans cette zone, pourtant ultra protégée, vu qu'elle abrite de nombreuses ambassades barricadées derrière de hauts murs. Les talibans ont affirmé sur Twitter ne pas être impliqués dans l'attaque et l'a fermement condamnée. Ils ont par le passé rarement revendiqué les attentats dans lesquels le nombre de victimes civiles s'avérait très lourd. Quant au groupe État islamique, auteur de plusieurs attentats sanglants dans la capitale afghane ces derniers mois, il ne s'était en revanche pas exprimé à ce stade. Selon le ministère afghan de la Santé, beaucoup de femmes et d'enfants figurent parmi les nombreuses victimes et le bilan pourrait encore s'aggraver à mesure que de nouveaux corps sont retirés des gravats.
La Maison-Blanche a condamné, je le cite, cette attaque atroce. Le fait que cette attaque ait lieu pendant le mois du Ramadan souligne sa dimension barbare, a indiqué un responsable de la Maison-Blanche. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Abdourahmane Dia.
Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a inauguré ce matin une ligne ferroviaire reliant la capitale Nairobi à Mombasa. Il s'agit du plus grand projet d'infrastructure accompli dans le pays depuis son indépendance en 1963. Il devrait asseoir la position du Kenya comme porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Une cérémonie en grande pompe a débuté dans la ville portuaire de Mombasa, depuis laquelle M. Kenyatta a rejoint la capitale Nairobi dans un train de passagers. Un trajet de 472 km. Le projet est financé par la Chine. Son coût, 2,8 milliards d'euros. En Côte d'Ivoire, Mediterranean Shipping Company, MSC, le deuxième plus grand armateur de porte-conteneurs du monde, a annoncé la signature d'un contrat de concession d'une durée de 35 ans avec le port de San Pedro, portant sur l'exploitation de son terminal à conteneurs. La moitié des exportations du cacao ivoirien transite par le port de San Pedro. Le Rwanda veut booster ses revenus touristiques. Le pays prévoit 444 millions de dollars de gains cette année, contre 404 millions de dollars en 2016. Selon les acteurs du secteur, cette hausse de 10% des revenus est largement réalisable. Le Rwanda est classé 11e pays africain en termes de compétitivité touristique par le World Organization Forum. Les autorités rwandaises ont entrepris ces derniers mois de nombreuses initiatives pour améliorer l'attractivité de leur industrie touristique, avec notamment la relance de la compagnie aérienne nationale Rwandair.
Alors une musique qui ne trompe pas, on accueille dans ce studio Bagassi Kouraï, c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
Et on commence par le football où Arsène Wenger, tant pour moi, prolonge à Arsenal.
Oui, l'entraîneur français de 67 ans a été prolongé pour 2 saisons à la tête du club anglais avec l'ambition de redresser la barre après une saison en pleine tempête. Il prolonge son contrat au moment même où les fans sont à bout de nerfs avec une absence de la Ligue des Champions et un naufrage contre le Bayern Munich, le club allemand. La septième victoire en Coupe d'Angleterre ce samedi a permis à Wenger de redorer un peu son blason.
Et alors, on passe à présent au tennis. Roland Garros, Milos Raonic accroché.
Oui, le Canadien, 6e joueur mondial, a été bousculé par le Brésilien Rogério Dutra Silva. Il est 79e joueur mondial avant de se reprendre et de l'emporter en 4-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 pour accéder au 3e tour de Roland Garros. Raonic affrontera au prochain tour l'Espagnol Guillermo Garcia Lopez, ex numéro 23 mondial, retombé au 153e rang.
Alors, début demain de la finale NBA, Bagassi.
Oui, c'est une finale très 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 attendue pour la 3e année consécutive. La finale NBA va opposer à partir de demain Cleveland à Golden State. Et John, est-ce que vous avez une préférence?
Ben écoute, je vais regarder. S'il y a des Africains qui jouent dans ces équipes, c'est eux que je vais supporter.
Donc ça veut dire que jusqu'à l'heure actuelle, vous n'avez aucune idée de la composition des deux équipes?
Non, pas du tout.
Eh bien, moi mon choix, c'est bien sûr les Golden State et Lionel Gaïma qui nous écoute à son équipe Washington Wizards éliminée à... Je crois, belle lurette. Hein. Et donc, ce duel demain, très attendu depuis le début de la saison, va départager Deux équipes déjà entrées dans l'histoire, sept joueurs qui débuteront à Auckland le match numéro 1 ont en effet participé au All-Star Game en février dernier. Et John, le All-Star Game, c'est ce match qui oppose chaque année les meilleurs joueurs de la NBA et Golden State, meilleure équipe de la saison régulière avec 67 victoires et 15 défaites, a foncé en finale seulement avec 12 matchs, tous gagnés avec un écart moyen de 16 points.
Alors il faut dire que demain, il faudra être devant le petit écran pour regarder ces grands matchs.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Cap à présent au dossier du jour. Et on commence par le Sénégal, où le ministère de l'Intérieur a clôturé hier la période des dépôts des listes de coalition qui entendent participer aux législatives du 30 juillet prochain. L'opposition, qui espère imposer une cohabitation au président Macky Sall, part en ordre dispersé. Mais c'est surtout l'annonce du retour de l'ancien président de 91 ans, Abdoulaye Wade, qui fait couler beaucoup d'encre à Dakar. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint Moumar Dieng, le directeur de publication du journal Nouvelle Hebdo.
L'opinion est assez partagée. Du côté du pouvoir, les gens sont plus ou moins choqués de voir que Nakouad, après sa défaite de 2012, puisse vouloir revenir et diriger une liste législative. Et cela est analysé toujours du côté de la mouvance présidentielle, comme un moment de revanche pour lui-même, Metwad, après sa défaite de 2012. Pas seulement du côté du pouvoir, mais même sur les flancs du Parti démocratique sénégalais, qui est le parti de Abdoulaye Wade, il y a une dissidence conduite par son ancien chef de cabinet, Pape Samoudou, et par son ancien ministre, Fardo Senghor, pour qui Wade n'aurait jamais dû accepter ce nouveau challenge. Et il considère sa décision comme le résultat des manipulations qui auraient été orchestrées par son fils Karim Wade, lequel aurait envie de revenir parce que, derrière tout cela, il y a un peu l'espoir ou l'espérance d'une victoire à l'élection. Il y a aussi une frange des Sénégalais qui se réjouissent un peu. De ce retour de Wade. Et souvent, c'est en réaction par rapport à ce qu'ils considèrent comme une panoplie de mauvaises politiques, de mauvaises politiques menées par le président Macky Sall depuis son arrivée au pouvoir en 2012.
Est-ce que Abdoulaye Wade est toujours populaire auprès des Sénégalais? Certains pensent que c'est ce qui justifie la décision de cette coalition de le placer en tête de liste.
Moi, je pense qu'il y a un peu des deux, parce que quoi que l'on puisse dire de l'homme, je pense qu'Abdoulaye Wade a encore un bassin électoral assez important. Maintenant, depuis 2012, le PDS s'est notablement affaibli avec le départ de plusieurs de ses tenants.
Cette opposition est très éclatée, si on peut le dire ainsi. 45 listes selon les médias sénégalais. Quelles sont les chances de cette opposition qui veut imposer la cohabitation à Macky Sall?
Dans l'histoire politique plus ou moins récente du Sénégal, je pense que les partis au pouvoir, les coalitions qui sont au pouvoir ont toujours largement gagné les élections législatives à cause justement du mode de scrutin majoritaire, le mode de scrutin départemental. Donc je pense que moi, d'une façon générale, à moins qu'il y ait une grosse surprise, je pense que la majorité présidentielle, la coalition d'Emma Bokayakar, pourrait se retrouver largement vainqueur de ces législatives.
Le journaliste sénégalais Moumar Dian joint à Dakar.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, un état des lieux des relations entre les États-Unis et l'Europe après la récente tournée du président américain. Berlin parle de partenariat amoindri tant au plan commercial que militaire. Donald Trump est d'avis que les Américains ne tirent pas totalement profit de ce partenariat. Les rapports américano-européens sont-ils à la croisée des chemins après des décennies d'entente? Quels sont d'après vous les avantages ou désavantages pour l'Afrique d'un possible éloignement américain des Européens? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h10.
En RDC, le président Joseph Kabila s'est rendu dans le Kasaï central. C'est sa première visite dans la province depuis le début en septembre d'une vague de violences meurtrières. Il a déjà reçu différents leaders d'opinion. Solange Niamoulissa a joint Sosten Kabindi, journaliste à la radio communautaire télévision chrétienne à Kananga au Kasaï central.
Le chef de l'État Joseph Kabila est arrivé à Kananga ce mardi. Il n'a fait aucune déclaration. parce qu'il était prévu qu'il tienne un meeting populaire, la population l'attendait, mais il a allégé une réunion de sécurité au bureau du gouverneur. Depuis ce mercredi matin, le chef de l'État accorde des audiences à l'unité de la province, les chefs coutumiers, les leaders des partis politiques, des activistes et de la société civile.
Comment les gens réagissent-ils par rapport à la visite du président Kabila au Kasaï?
Les réactions sont diversifiées. Pour les chefs coutumiers, il ne va pas du chef de l'État. La pacification de la province du Kasaï central en particulier et de l'espace du Grand Kasaï en général. Pour les acteurs politiques, le porte-parole du Rassemblement au Kasaï central a dit tout à l'heure qu'il devait transmettre un message au chef de l'État. C'est que le chef de l'État retire de la liste du secteur opérationnel l'espace Grand Kasaï parce qu'il dit que les militaires, le secteur opérationnel est en poste au Kasaï. Les acteurs politiques de l'opposition notent qu'il y a eu plusieurs violations des droits de l'homme. Donc pour eux, il faudrait que le chef de l'État abroge cette ordonnance qui fait du Kasaï un secteur opérationnel de l'armée. Par contre, pour la société civile, c'est peut-être plus un engagement fort dans le respect des droits de l'homme et aussi l'action contre tous les auteurs que la société civile dit jusqu'à présent avoir identifiés comme étant auteurs de plusieurs cas de viol des femmes, plusieurs cas de tuerie à travers la province. Mais les Kassaïens, là-bas, lorsque nous l'avons rencontré, tout le monde a fait la paix de mettre mot. Et il y a même une dame tout à l'heure qui nous a dit que nous voulons que le chef de l'État nous rassure que le processus d'enrôlement en Kasaï va bientôt commencer pour qu'on aille aux élections.
Qu'en est-il du problème de Kamuina Nsapu et comment ça se passe avec son successeur?
Le successeur de Kamuina Nsapu, M. Jacques Lipumbakadega, est entre deux avions, entre Kananga et Kinshasa. Il n'était pas encore rendu au village. Pour l'instant, il y a des cours dans le territoire de Dibaya, qui est le plus centre même du phénomène de Kamuina Nsapu, où plus personne ne peut y mettre aujourd'hui le pied. Il n'y a pas longtemps, pour la passation des examens du baccalauréat, il y a eu des inspecteurs qui sont rentrés en catastrophe parce que des miliciens dans le territoire de Dibaya qui ne voulaient pas faire la passation des examens du baccalauréat.
Sosten Kabindi, journaliste à la radio communautaire Télévision Chrétienne à Kananga, au Kasaï central.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Maroc, vague de tensions dans le Rif, région du nord du royaume. Depuis le début du mois de Ramadan, plusieurs centaines de personnes protestent contre les conditions économiques et sociales. Le leader de ce mouvement de contestation a été arrêté, mais la grogne ne faiblit pas. Pour en savoir plus, Salwa Jafari a joint par téléphone l'analyste politique Mustapha Tossa.
Les faits ont commencé par un accident à la limite très stupide. C'est un vendeur de poissons à la sauvette qui s'est fait écraser par un camion poubelle devant témoin. C'était une sorte d'étincelle qui avait provoqué de nombreuses manifestations et de nombreuses colères de la part des gens de Al-Husseima. Alors cette étincelle avait été le début d'une série de manifestations de colère des gens qui est devenu au fil des mois très revendicatif. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que cette série de manifestations a duré à peu près 7 mois. Alors, les revendications sont d'ordre social et économique. Alors, on sait que cette région, cette ville de Al-Husseima, souffre depuis des années d'une espèce d'enclavement et de marginalisation. Il n'y a pas beaucoup de projets économiques et il n'y a pas beaucoup de services publics.
Monsieur Tossa, parlons un peu de la gestion de l'État marocain face à ces manifestations. Il y a eu certains dérapages, on l'a tous vu dans certaines vidéos. Quelle est la stratégie de l'État dans ce cas particulier? Et est-ce une bonne stratégie à votre avis?
En fait, la stratégie de l'État, ils ont montré leur incapacité à dégoupiller un conflit social. Il y a eu des manifestations depuis 6 mois et pendant 6 mois, on a laissé faire. Alors on a laissé faire, juste pour rien, nous dirons pourquoi. Chacun avait sa propre agenda. On sait très bien qu'à Rabat et à Casa, à l'intérieur des partis politiques, il y avait un gouvernement qui était en train de se former. Il y avait des forces politiques qui avaient intérêt à ce que ça se forme, d'autres qui avaient intérêt à ce que ça capote. Donc la gestion a été un échec total parce qu'on ne peut pas laisser un mouvement social grossir de cette manière-là, jusqu'à risquer une confrontation, une rupture totale avec le pouvoir central. Donc c'est un échec. Et en plus, quand il y a eu l'envoi d'une délégation ministérielle, les arguments présentés par cette délégation, apparemment, n'ont pas été suffisamment convaincants. Il n'y a pas eu de savoir-faire pour gérer cette crise, à tel point que s'il n'y avait pas l'erreur qui a été commise par Nasser Zardari, il n'aurait jamais pu être arrêté de cette manière-là. Nasser Zardari a commis une erreur politiquement et socialement mortelle, c'est de rentrer dans une mosquée, de prendre la force, par force la parole et de prêcher un discours religieux qui est aux antipodes de la philosophie religieuse du pays. Donc il a commis une erreur et c'est ce qui a permis à la justice marocaine de lancer un arrêt, un mandat d'arrêt pour l'arrêter et donc pour le juger.
L'analyste politique Mustapha Tossa, joint par Salwa Jafari. Ce 31 mai est marqué par la journée mondiale sans tabac dans le but de souligner les risques pour la santé liés au tabagisme et plaider en faveur de politiques efficaces pour réduire la consommation des tabacs. À Abidjan, une conférence de presse a eu lieu sur le sujet et Kiabadou a joint Lassine Attal, président des ONG de lutte contre le tabac.
La journée mondiale 2007 dont le thème est « Tabac, une menace pour le développement ». Il était important pour nous d'attirer l'attention de nos décideurs sur un certain nombre de priorités pour notre pays, notamment l'adoption d'une loi relative à la lutte anti-tabac. Le 17 décembre 2014, le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi en Conseil des ministres relatif à la lutte anti-tabac. Nous sommes en 2017. Jusqu'à ce jour, le projet de loi n'a pas été transmis à l'Assemblée nationale. C'est l'interférence de l'industrie du tabac qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, le projet de loi n'a pas été transmis, bien que adopté en Conseil des ministres, n'a pas été transmis à l'Assemblée nationale.
L'OMS parle de 7 millions de personnes qui perdraient la vie suite aux conséquences du tabac. Et parmi les mesures citées, il y a l'augmentation de façon drastique du prix du tabac. Est-ce que, selon vous, c'est une mesure qui peut marcher?
Oui, c'est une mesure qui peut marcher parce que c'est des mesures qui ont été prouvées ailleurs. On s'est rendu compte que quand on augmente d'un dollar, pratiquement, on a 42% déjà des ressources qui sont mobilisées pour nos pays. Et je pense qu'effectivement, c'est une très bonne mesure et que dans le cadre même de notre campagne, c'est ce que nous avons essayé de lancer comme message fort. Qu'il se plaît à nos gouvernements dans les pays en voie de développement, qu'ils se plaignent qu'ils n'ont pas des ressources. Une sous-taxe sur les produits du tabac serait une bonne source de devises de fonds pour financer le développement.
Journée anti-tabac, journée de sensibilisation. En quoi cela vous semble-t-il utile?
C'est utile parce que, vous savez, en matière de lutte contre le tabac, aujourd'hui, ce n'est pas dans tous les pays une priorité. Parce que dans nos pays, on se dit que la première préoccupation, c'est de lutter contre la pauvreté. Oubliant qu'il y a certains facteurs, comme le tabac, comme ça, qui exacerbent, au contraire, qui amènent plutôt à la pauvreté. Vous vous imaginez que les fumeurs, qui généralement sont des pères de famille, préfèrent payer de la cigarette, qui en réalité n'a aucun bénéfice sur leur santé, au contraire, qui va détruire leur santé. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. 90% des cancers en Côte d'Ivoire ont pour facteur commun le tabagisme. Les personnes qui ont le cancer et les maladies liées au tabac, de façon générale, font dépenser à l'État ivoirien plus de 27 milliards de francs CFA.
Lassine Attal, président des ONG de lutte contre le tabac.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Lionel Gaïma. Wagner Roberts était à la console. Présentation, John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous. Restez fidèles au programme de VO Afrique. Bonsoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.